L'émotion était immense ce mardi à la mosquée de Savigny-sur-Orge aux obsèques de Shamseddine, 15 ans, mort vendredi dernier, moins de 24 heures après avoir été lynché par une bande de jeunes pour une partie mineure. Le mobile du crime, une vengeance, une histoire de réputation ou la volonté de protection, voire de contrôle de deux frères envers leur petite sœur. Cette dernière aurait échangé des messages à caractère sexuel avec cet adolescent. Une marche blanche aura lieu demain en son hommage dans ce quartier meurtri. Mais au-delà de cette affaire, c'est la question de la violence qui s'exerce entre les jeunes qui se pose, qui début décembre a entraîné la mort d'un adolescent de 15 ans après une rixe dans le Val d'Oise, de deux adolescents au mois de janvier à Saint-Denis, ou encore, 3 ans plus tôt, de Yuri, 14 ans sur la dalle de Beaugrenelle dans le sud de Paris. Les exemples sont très nombreux et ils résistent malheureusement à tous les plans anti-rix lancés par les collectivités locales qui tentent d'impliquer parents, mais aussi adolescents. Qu'est-ce qui manque pour que ça change? Faut-il vraiment durcir la réponse pénale envers les mineurs, comme le préconise le gouvernement? Pour répondre à ces questions, en plateau avec nous, Maud Petit, députée MoDem de la 4e circonscription du Val-de-Marne et membre de la commission des affaires sociales, Fatima Ogbi, conseillère régionale socialiste d'Île-de-France et co-auteur d'un rapport sur les RICS, François Durovray, président du département de l'Essonne. Jeunes en Île-de-France, une violence évitable, c'est le sujet de notre nouveau numéro d'Île-de-France Politique. Et bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup d'être sur ce plateau pour évoquer ce sujet épineux qui n'est pas nouveau. Hein. On va partir du particulier pour remonter un petit peu au général dans cette histoire de Viry-Châtillon dont je viens de parler à l'instant. Ce n'est pas une histoire de rixe entre bandes rivales, mais est-ce que ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre aujourd'hui ?
Oui, ce n'est pas le même motif. Effectivement, c'est ce qu'on appelle... un crime d'honneur, je ne le qualifie pas de cette façon-là, j'estime que c'est un crime barbare, puisque, effectivement, comme vous l'avez indiqué, les agresseurs auraient tué Shamseddine pour les raisons que vous avez évoquées, et qui n'ont pas leur place dans la République, évidemment. Après, oui, ça interroge sur la question de la violence dans notre société, à la fois sur la sanction de la violence et sur la prévention de la violence. Je crois qu'on est là pour en débattre ce soir.
Effectivement. Fatima Ogbi, vous êtes co-auteur d'un rapport intitulé « Pour un plan régional de lutte contre les RICS en Île-de-France ». Dans ce rapport, vous écrivez « Les RICS sont un phénomène récent ». Vous sous-entendez donc que ces conflits n'existaient pas vraiment au-delà d'il y a une trentaine d'années ?
C'est des tensions entre jeunes qui existent depuis de nombreuses années. Ce qui est récent aujourd'hui et la particularité qu'on peut rencontrer dans les RICS d'aujourd'hui, c'est notamment l'âge des jeunes c'est de plus en plus tôt, le rôle des jeunes filles aujourd'hui dans les RICS et l'enjeu des réseaux sociaux qui n'existaient pas avant. Et donc en fait on a un phénomène qui existe depuis de longues années. Mais des critères liés à ces rixes-là, pour le coup, qui sont aujourd'hui plutôt nouveaux.
C'est une question d'ultra-violence, réseaux sociaux aussi ? Maud Petit.
Alors permettez-moi, avant de prendre la parole sur le sujet, d'adresser toutes mes condoléances aux parents et tout mon soutien pour ce moment de douleur qu'ils traversent. Oui, effectivement, dans ces violences, je pense qu'on peut rajouter les réseaux sociaux, avec peut-être pour certains jeunes la volonté de challenge. Alors, je ne vais pas dire que c'était le cas dans les épisodes dramatiques qui se sont déroulés, mais les réseaux sociaux probablement stimulent, il y a une sorte d'émulation, se pousser à faire quelque chose et puis provoquer ensuite sur le terrain un effet de meute, puisque bien évidemment, je pense que à plusieurs, on se sent plus fort que tout seul. Donc oui, je pense qu'on peut incriminer aussi les réseaux sociaux.
Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas interdire les réseaux sociaux à tous les mineurs.
Il y a sûrement beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et tout à l'heure, mon voisin parlait de prévention. Je sais que c'est aussi un sujet qui est porté par Madame Ogbi. Il y a beaucoup à travailler sur la prévention, à accompagner déjà les parents. Parce que tous les parents ne sont pas démissionnaires. Certains, malheureusement, subissent aussi la violence de leurs enfants. Il y a à prendre en compte aussi le fait qu'il y a des enfants, des mineurs, qui grandissent dans des familles violentes. Et donc, on se nourrit de cette violence, qu'on en soit victime, qu'on en soit témoin. On finit par la reproduire à un moment ou à un autre. Donc, il y a ces sujets-là de prévention, d'accompagnement déjà des parents. Il y a de la prévention aussi en accompagnement les jeunes, c'est-à-dire en faisant en sorte à ce qu'ils ne soient plus oisifs, désœuvrés. Donc et ça je suis sûre que les élus locaux qui sont présents ici pourront en parler, mais mettre en place des structures pour que les jeunes puissent faire du sport, du cinéma, de la musique, etc., qu'ils aient une occupation. Et puis il y a beaucoup d'autres choses bien évidemment, mais il y a aussi de la fermeté à avoir lorsque nous en arrivons là.
On va revenir très rapidement, je vous le promets, sur ces réponses face donc à ces violences. Juste avant, on termine sur le constat, si ça vous va bien. Nous avons ressorti ces chiffres pour les RICS, vous allez les voir. De très nombreuses RICS ont lieu en Ile-de-France. 32% des RICS se sont déroulés en Ile-de-France. Ça, ce sont des chiffres de 2022. 20% rien que pour le département de l'Essonne. Et on a ressorti aussi cette citation d'une tribune que vous avez signée, François Durovray, avec 176 élus locaux dans Le Monde. C'était il y a 2 ans. Vous écriviez à l'adresse d'Emmanuel Macron, alors qu'en 2020, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, un quart des RICS recensés en France a lieu dans l'Essonne. Il n'est pas acceptable que notre territoire reste si nettement sous-doté en effectif des services publics de l'État. L'écart par rapport aux autres départements est très significatif. Vous demandiez donc un plan Essonne qui avait été promis pourtant en 2021, qui n'avait pas été mis en place en 2022. Qu'est-ce qui a changé depuis cette tribune ?
Malheureusement, pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il y a des actions, lorsqu'on parle des RICS, il y a des actions de prévention, et ça a été rappelé, on pourra y revenir. Les collectivités locales font beaucoup de choses, mais il y a également des sanctions à porter. Et là, c'est le rôle de l'État régalien. Et donc, c'est la raison pour laquelle on estime totalement injustifié qu'en Essonne, il y ait moins de policiers par habitant que dans le reste de l'Île-de-France. Il n'est pas normal qu'au tribunal d'Évry, il y ait 42% de magistrats en moins que la moyenne française. Mmh. Et ça a une conséquence très pratique, c'est que lorsqu'il y a un enfant, parce qu'effectivement, ce sont des enfants qui commettent une faute, la sanction n'arrive pas. Et donc, l'enfant continue et aggrave au fil du temps les fautes qu'il commet. Donc c'est très important, même si la faute est minime, qu'il y ait la sanction publique qui intervienne. Mais pour ça, il faut des magistrats. Et puis il faut évidemment un système éducatif renforcé. Et là aussi, il n'est pas normal que nous ayons 10 enseignants de moins pour 1000 élèves que Paris, par exemple.
L'État démissionnaire, Fatima Oghbi ?
Ce qui est sûr et certain, et c'est pour ça que moi je voudrais qu'on ait un regard beaucoup plus large, c'est qu'on ne peut pas uniquement tirer le fil de la sanction et de la répression si on ne tire pas le fil de la prévention. Ce serait un échec. Mmh. Et pareil, si on ne tire uniquement le fil de la prévention sans aller sur la question des sanctions et de la fermeté, ce sera un échec. Et donc, il faut réussir à lier les deux. Donc, pour moi, en fait, je ferai porter la responsabilité. Et c'est un sujet, d'ailleurs, excusez-moi, je me permets cette aparté, mais qu'il faut prendre en toute humilité. D'abord, par sa complexité, du public auquel on s'adresse, qui est aujourd'hui une génération qui est complètement différente des générations précédentes. Et donc, pour moi, on a tous une part de responsabilité. Et je m'y associe même. De faire porter la responsabilité uniquement à l'État, ce serait un tort. De faire uniquement porter la responsabilité aux parents, ce serait un tort. De faire porter la responsabilité uniquement au conseil départemental, puisqu'on pourrait parler aussi de la question de la prévention spécialisée, c'est un sujet aussi dans l'Essonne, ce serait un tort. Et de certaines collectivités territoriales dans les politiques publiques qu'elles mènent. Je vais donner un exemple. On a aujourd'hui des collectivités territoriales qui ouvrent leurs structures pour les jeunes le samedi après-midi. Donc un jeune dans une ville, il existe des structures dans lesquelles ça permet, un, d'éviter d'être en extérieur, et puis deux, de pouvoir avoir des activités collectives. Et d'autres collectivités qui n'ouvrent pas les structures jeunesse le samedi après-midi. Et pour autant, c'est le moment dans lequel on a besoin d'avoir du service public de proximité, notamment dans le quartier. Donc, il y a beaucoup de responsabilités. Moi, les responsabilités sont partagées.
Mais on est tous d'accord, je pense, pour considérer sur ce plateau qu'il faut rehausser la vigilance de tous les acteurs, les institutions publiques, évidemment, à la fois en prévention et en répression. Ouais. La question des parents qui se pose, parce que... Et à la fois, on peut comprendre que lorsqu'on vit notamment en Essonne, la vie soit parfois plus difficile que lorsqu'on vit ailleurs, parce que les familles sont monoparentales à 24% contre 16% en moyenne nationale, parce qu'on a des temps de transport qui sont plus élevés, et donc que c'est plus difficile de s'occuper de ses enfants. Mais c'est pas parce que c'est plus difficile de s'occuper de ses enfants qu'on doit abandonner la responsabilité des parents. Et moi, au lendemain du drame de Chemseddine, à De Viry-Châtillon, j'ai demandé à l'ensemble des parents de se poser la question de savoir ce qu'ils pouvaient faire eux-mêmes pour nous aider à limiter ces RICS. Mais après, évidemment, l'ensemble des institutions doit se mobiliser. Les collectivités locales font beaucoup de choses. Mmh. On pourrait en estimer qu'on est nécessaire d'en faire davantage encore, mais on a un éventail aujourd'hui, dans, s'agissant du département de l'Essonne, par exemple, dans les collèges avec des actions citoyennes pour justement sensibiliser les jeunes, ces mmh. questions-là, la prévention spécialisée. Nous sommes le deuxième département français en termes de budget sur la prévention spécialisée. Des médiateurs que nous avons commencé à déployer dans les collèges pour faire le lien avec tous les acteurs qui sont dans la ville, les services jeunesse, les services de police.
Force de constater que ça ne fonctionne
mais si,
pas.
Si, ce que je voudrais vous dire. Mais si, ce que je voudrais vous dire, d'abord, il n'y a pas de résultat garanti à 100%. Mais il y a quand même énormément de belles réussites. Voilà, et il y a des drames, voilà, comme ceux que vous
évoquez. C'est un travail de longue haleine, parce que, en fait, ce qu'il faut arrêter de faire, ce sont des réponses immédiates à des situations de crise, c'est-à-dire de mettre un pansement. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre en place des politiques publiques. Et les politiques publiques, nous en sommes tous d'accord, elles prennent du temps à se mettre en œuvre et elles prennent du temps à avoir des résultats. Donc c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que ça ne marche pas, mais si, je suis sûre qu'on récupère beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, grâce à ce qui est mis en place. Mm-hmm. Dans ma circonscription, à Villiers-sur-Marne, il y a un établissement magnifique qui s'appelle l'Escale. C'est un centre socio-culturel qui accueille les jeunes, qui les accompagne, leur permet de faire du sport le week-end y compris, qui les accompagne pour leur payer le permis de conduire. En fait, il y a plein de choses qui sont mises à disposition pour les jeunes dans localement en fait, et qui portent leurs fruits, mais c'est lent en fait, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse immédiate.
Excusez-moi, mais d'abord de dire que les parents, alors même si effectivement il y a la nécessité à sensibiliser les parents alors sur plusieurs aspects d'ailleurs, on parlait des réseaux sociaux mais les parents ils sont on ne peut pas dire qu'ils sont complètement absents. Prenons un exemple dans l'Essonne. Vigneux, on a une association de mamans qui sont mobilisées, et pas que de mamans d'ailleurs, de parents, dont l'un des fondateurs est d'ailleurs un papa dont son fils a perdu la vue suite à une rixe.
Qu'à Corbeil-Essonnes,
les Gilets roses, et donc on a bien évidemment des parents qui sont mobilisés. D'où l'importance, et ça a été un peu le travail dans le rapport avec... un axe central des propositions qu'on avait faites. Là, on a dit il y a une multitude de petites actions. Elles sont importantes, elles sont nécessaires et il faut continuer de les accompagner. Mmh. Ceux qui sont au plus près, on peut se le dire aussi, du terrain, au contact avec les jeunes, et dont les jeunes, ils ont un rapport différent avec nous, institutions, élus, ça reste le tissu associatif qui, pour moi, est le deuxième pilier du service public. Or, il se passe quoi ? D'abord, la réalité, c'est qu'on sabre un peu les financements aux associations, qu'elles ont beaucoup moins de moyens pour être sur le terrain.
Moins de bénévoles aussi, peut-être.
Il faut aussi les valoriser, donc c'est tout un tout. Et par exemple, dans l'appel à projet, c'est ce que moi j'avais porté au niveau de la région, c'était dire aujourd'hui, au niveau de la région, puisque c'est un problème francilien et essonien, quand on découle au niveau département par département chez nous, et dire qu'il faut que la région elle s'implique de façon beaucoup plus importante. Et j'avais demandé à ce qu'il y ait un appel à projet spécifique en direction des RICS pour pouvoir accompagner les associations, et il y en a une multitude. Et si on ne s'adosse pas sur elles, et de penser que nous, tout seuls, on y arrivera, d'abord, c'est un, se tromper. Et donc, l'appel à projet a été créé au mois de janvier, je m'en félicite. Les premières subventions doivent être attribuées dans les mois là, qui arrivent, à la prochaine commission permanente, je crois, du mois de mai. Et donc, il y a besoin de s'adosser sur le site.
Mais si vous permettez, je ne pense pas un désaccord, mais au moins une nuance. C'est que la question des familles est fondamentale si on se met d'accord, et je crois que nous le sommes, sur les causes. Parmi les causes, il y a évidemment la présence des écrans et des jeux vidéo, d'ailleurs, qui montrent qu'il y a une forme de violence. Dans les jeux vidéo, on peut mourir, revivre quelques minutes ou secondes après. Et donc, les jeunes ont un rapport à la violence, et y compris à leur propre corps, qui est différent d'auparavant.
Mais si on n'arrive pas
à mobiliser les familles sur cette question-là, sur le danger des écrans, sur la nécessité de tenir à l'écart les enfants des écrans dans le cercle familial, les institutions ne pourront pas seules. Nous, évidemment, on récupère derrière dans les PMI, par exemple, les centres de protection maternelle et infantile. J'ai demandé à mes équipes d'être plus attentive à la maîtrise du langage avant 3 ans, parce qu'un gamin qui ne parle pas à 3 ans, non seulement il va avoir un échec scolaire, mais c'est la signification que dans le cercle familial, il y a des difficultés. Mais
que lorsqu'on signale cette difficulté... C'est pour ça que je parlais d'accompagnement des parents au début de mes propos. Mais Tout à fait. Il y a un rôle important de la famille, soit à accompagner la famille, soit à leur donner les outils pour mieux faire. Mais il y a un autre aspect aussi que je voudrais évoquer. Il y a une ghettoisation, en fait, de certaines personnes. Et donc, vous retrouvez certaines catégories de personnes dans des quartiers identiques qui ne sont pas toujours valorisés, pas toujours mis en avant. Et on a ce qu'on appelle l'ANRU, qui permet de réaménager certains quartiers, de redonner un petit peu d'espace, de verdure, de redonner le goût aux gens de vivre ensemble, et qui inclut, qui amène de la mixité sociale. Et c'est très important, en fait, qu'il puisse y avoir de la mixité sociale. Mais bien sûr,
je suis complètement d'accord, mais malheureusement,
parce qu'il faut c'est pas la réalité.
Ah, c'est pas la réalité.
Ça n'est pas la réalité. C'est un souhait. C'est ce vers quoi il faudrait aller, à mon sens.
Il faut évidemment mettre de la diversité dans les. Il faut mettre de la diversité dans les quartiers. Vous voyez, une fête de quartier au printemps dernier, les femmes qui étaient présentes, et c'est souvent les femmes qui sont présentes dans les fêtes de quartier. Il y a la question des papas aussi qui se posent. Mais les femmes me disaient, vous savez, Monsieur le Président, on est trop d'immigrés dans le quartier. Elles étaient toutes immigrées. Et la question de la diversité, du peuplement dans ces quartiers,
je parle de mixité,
et de mixité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la réalité.
Aujourd'hui, c'est pas la réalité. Il faut aller vers la cité locale, aux communes, qui refusent aussi de construire du logement social. Et donc, tout logement social.
La question principale, c'est le défaut de rotation aujourd'hui. On reste dans son logement social de plus en plus longtemps parce qu'on n'arrive plus à accéder à la propriété. Et du coup, les quartiers... se sédimente, si vous me permettez l'expression, et on a des populations qui ont des difficultés qui se concentrent. Et donc ça, il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte évidemment avec des constructions de logements, mais il faut qu'on en sorte aussi avec la capacité des habitants à accéder à la propriété, ce qui n'est plus le cas malheureusement pour une partie de la population.
Et enfin, de faire respecter aux villes la loi SRU, de bien construire 25% de logements sociaux sur leur territoire, ce qui permettra pour le coup de prendre leur part à l'effort national.
Fatima Oubi, qui écoute les jeunes? Est-ce qu'ils écoutent vraiment leurs parents, ou est-ce qu'ils écoutent plutôt les grands frères, les médiateurs, les relais dans les MJC?
Aya, ils écoutent Aya.
Pour l'écouter peut-être à la cérémonie d'ouverture.
Les logiciels aujourd'hui, ils ont complètement changé, et je crois que dans notre rapport nous-mêmes à la jeunesse, il va falloir que on retravaille les logiciels tels qu'ils existaient avant. Si on veut réussir vraiment à freiner la spirale infernale dans laquelle on est aujourd'hui, et moi je le dis avec un risque qui va être de plus en plus important quand on regarde la violence, où au début, c'est avec les mains. Ensuite, c'est avec des outils. On n'est pas à l'abri. Ça a déjà eu lieu, d'ailleurs, sur certaines rixes, à ce qu'on finisse avec des armes. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve...
Le corps lui-même devient une arme.
Je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans 10 ans en France, comme ce qu'a pu vivre les États-Unis il y a 25 ans. Et donc, je dis, il y a un risque réel dans lequel chacun vraiment doit prendre sa part de responsabilité pour qu'on puisse...
Quel modèle on prône pour les jeunes aussi? Ouais. Quel modèle de société?
Et donc, pour le coup, il y a la violence dont on est en train de parler, mais la violence...
Mais
aussi.
On va de plan rixe en plan rixe, et on a la sensation que finalement... Rien n'évolue.
Moi, je voudrais. J'ai
alors
regardé.
Les solutions sont sans doute sur le papier très bonnes, mais dans les faits, rien ne change.
Non, mais je pense qu'il y a une partie des solutions qui sont des actions qui sont déjà menées. Je prends l'exemple de l'Essonne, parce que l'Essonne a été vraiment un département à l'avant-première, parce que c'est un département qui a le plus subi. Donc, au niveau de la préfecture de l'Essonne, j'avais rencontré à plusieurs reprises le préfet. Je vais rencontrer bientôt M. Durovray, le département. Mais en tous les cas, il y a des choses qui sont innovantes et qui sont mises en place. Il faut continuer à accélérer.
Notamment des entretiens avec les parents,
Exactement. Bon, il faut réussir à coordonner tout ça, parce qu'on a aussi des actions, des gens qui sont un petit peu isolés. C'est pour ça que moi, j'avais porté au niveau de la région qu'elle soit aussi impulsatrice d'une politique beaucoup plus large et commune à tous, et qui permet justement à donner plus de sens. Et en même temps, excusez-moi, j'ai regardé, j'ai vu un rapport, alors je pense que des chiffres actualité, mais 2012, on a un rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, il dit qu'il y a d'abord de grandes inégalités à l'école, et que l'Académie de Paris, c'est 47% de plus que pour un lycéen à l'Académie de Créteil. Et donc, ce n'est pas l'éducation.
C'est-à-dire
42%
de moyens. Et donc, ce n'est pas éducation nationale, ça devient éducation territoriale. Et donc, on crée les inégalités, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et donc, pour le coup, il y a ce sujet-là. J'ai un deuxième sujet à la région, excusez-moi, mais très rapidement. Au moment où on a besoin d'accompagner encore de façon plus importante les jeunes, manque de repères, échecs scolaires, de pouvoir les accompagner à l'insertion professionnelle, pour ceux qui sont les plus éloignés, on vient de sabrer de presque 8 millions le budget, excusez-moi monsieur Durovray, sur l'éducation, la prévention spécialisée. Dans l'Essonne, vous êtes un petit peu maintenu, plus de communes, donc pour le coup des collectivités qui n'auront peut-être plus la possibilité de pouvoir créer. Donc il y a, vous voyez, entre le discours, il y a plus de besoins, il faut faire, et en même temps on réduit.
Et un logiciel. On avance un petit peu dans cette émission, pardon. Pardon, je voudrais
juste passionnant.
Il y a Adèle Abderrahim qui nous attend justement parce qu'à la suite de ce qui s'est passé la semaine dernière à Viry-Châtillon, le gouvernement a décidé de hausser le ton contre les adolescents coupables de violence. Mais jusqu'ici, à quelles sanctions pénales s'exposent ces mineurs? C'est ce que l'on voit tout de suite dans le focus d'Île-de-France Politique. Adèle Abderrahim, bonsoir. Quelle réponse pénale s'applique aujourd'hui aux mineurs?
Eh bien, en France, il existe un régime spécial concernant les mineurs coupables de délits et de crimes. On parle de responsabilité pénale des mineurs et elle peut être engagée à partir de 13 ans. En dessous de cet âge, la justice considère que les plus jeunes ne sont pas capables de discernement et donc ne seront pas reconnus comme coupables d'infraction. Attention toutefois, il ne s'agit que d'une présomption de non-discernement au même titre que la plus connue présomption d'innocence. Ceci implique qu'il est possible de prouver l'intention et la compréhension de l'infraction et donc d'engager la responsabilité pénale du mineur de moins de 13 ans. À partir de 13 ans, et jusqu'à 18 ans, les peines seront aménagées au cas par quoi, au cas par cas. Elles peuvent varier avec la confiscation de l'objet ayant servi à la commission de l'infraction. Il peut y avoir des stages de citoyenneté ou de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants, le cas échéant, mais aussi des travaux d'intérêt général si l'enfant est âgé d'au moins 16 ans au moment du prononcé de la peine et non de la commission de l'infraction.
Donc, si je t'entends bien, une justice plutôt de prévention plutôt que de sanction.
Oui, effectivement, Alexia, concernant les mineurs, la justice cherchera en priorité à ordonner des peines éducatives plutôt que punitives, ce qui implique donc que les peines d'emprisonnement pour les délits, voire de réclusion criminelle pour les crimes, ne doivent être attribuées qu'à titre exceptionnel pour les cas les plus graves et en dernier recours et ne peuvent excéder 20 ans contre 30 pour les majeurs. Par exemple, les mineurs ayant été jugés pour leur implication dans l'assassinat de Samuel Paty, eh bien, ces adolescents ont écopé de peines allant de 14 à 24 mois de prison avec sursis, peines aménagées, avec bracelet électronique, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été en centre de détention. À partir de 18 ans, intervient donc la majorité pénale, âge à partir duquel l'excuse de minorité ne pourra plus leur être attribuée. Les sanctions pénales s'appliqueront donc normalement.
Merci beaucoup, Adèle Abderrahim. Donc pour toutes ces précisions, est-ce qu'il faut durcir les sanctions pénales envers les mineurs et les exposer à une sanction pénale dès la première infraction?
Il faut une stratégie globale. Et dans le cadre de cette stratégie globale, on doit se poser la question de l'excuse de minorité, par exemple, et voir si il est nécessaire de renforcer davantage les sanctions. Après, ça a été dit tout à l'heure, il y a énormément d'initiatives qui ont été prises par l'ensemble des institutions dans le département de l'Essonne pour faire face à un phénomène auquel nous avons été confrontés. Maintenant, je pense qu'il est venu le temps d'avoir une stratégie globale et que cette stratégie globale, on soit capable de la construire ensemble. Nous avons un plan de résilience républicaine au département. J'ai proposé à la préfète qu'on puisse ensemble, l'État et le département, porter ce sujet-là. Nous organisons le 22 avril prochain, et c'était prévu évidemment avant les événements de Viry-Châtillon, une conférence pour faire à la fois le bilan et l'analyse avec des spécialistes des RICS en Essonne et pour construire ensemble des propositions, parce que évidemment il ne faut pas que ce soit l'État de son côté, le département de son côté, les communes de leur côté, les associations de l'autre.
Une co-construction.
Et les jeunes, on voit ce qui marche moins bien et qu'on y réfléchisse ensemble. Bien sûr,
bien sûr. Et ils le seront.
Ah ben là, il y a la conférence, elle est ouverte à tout le monde, et ensuite les solutions elles doivent être construites avec les jeunes, y compris à personne.
Ouvert à tout le monde, ça ne veut pas dire que les gens viennent.
Bien sûr, mais non, mais attendez, après le département, on a organisé des assises de la jeunesse il y a deux ans. Il n'y a aucune difficulté pour qu'on aille à la rencontre des jeunes et de tous les acteurs de la prévention pour construire ce nouveau plan.
À la question, fallait-il durcir les sanctions pénales envers les mineurs et les exposer à une sanction pénale dès la première infraction, Maud Petit ?
Dès la première infraction, ça dépend de l'infraction, j'ai envie de dire. Donc ça dépend de son intensité. Est-ce que c'est une contravention? Est-ce que c'est un délit? Est-ce que c'est un crime?
Oui, oui, en l'occurrence, plutôt les crimes.
Voilà, donc si c'est un crime, je pense que oui. Dès le départ, en fait, il faut être très, très ferme, très ferme. Après, nous sommes face à des jeunes aujourd'hui qui sont en minorité, je pense, mais qui ont perdu, ça a été dit tout à l'heure, beaucoup de repères. Ils sont en recherche de repères. Donc, à mon avis, il faut construire avec eux de nouveaux repères. Il faut leur donner envie de faire sens, de faire nation, peut-être, mais il faut les mobiliser autour de causes qui les intéressent pour les sortir, justement, de la situation dans laquelle ils sont.
Fatima Oubi.
Moi, je partage ce qui vient d'être dit. À partir du moment où il y a un crime qui a été commis, bien évidemment, d'abord, on ne peut pas laisser à penser que quand on fait un crime aujourd'hui, eh ben, on ne serait pas puni. Donc, il faut effectivement punir.
La certitude de la sanction. La certitude, il ne faut pas passer entre les gouttes.
Mais en même temps, je reviendrai toujours, moi, avec mon deuxième palier, c'est-à-dire la question de la prévention, bien évidemment. L'objectif pour nous, quand même, parce que c'est un échec pour l'ensemble de la société que de voir des jeunes mourir dramatiquement pour des futilités. Et donc, il faut qu'on stoppe cette spirale infernale dans laquelle on est engrangé là depuis maintenant un petit moment. Et moi, là, vraiment, parce qu'on parle beaucoup, les jeunes, c'est pas la jeunesse, c'est les jeunesses, parce qu'elles ne se ressemblent pas toutes. Mmh. Et la deuxième des choses, c'est que il faut aussi prendre en considération qu'on est face à une génération qui est la génération Covid, où on le voit bien dans les dernières études de l'impact psychologique que ça peut avoir sur les jeunes. C'est pour ça que je parlais de changement de logiciel tout à l'heure. On peut pas aller plus loin dans l'exposé, mais c'est la génération TikTok, qu'on le veuille ou pas. Ils vivent dans la violence au quotidien. Les jeux, les réseaux sociaux,
la sexualité très tôt, de plus en plus tôt.
Moi j'ai été choquée d'avoir une rencontre à un moment donné avec des jeunes où la question était posée sur justement Internet. Et la question qui leur avait été posée, c'est est-ce qu'ils avaient déjà vu des décapitations sur Internet, des exécutions. Moi j'ai été choquée qu'on pouvait voir des exécutions en direct, qui avaient lieu par exemple au Mexique sur Telegram et qu'ils avaient accès à ça. Quel est le rapport à la mort? Quel est le rapport à la
question de la limite, des réseaux sociaux, de ce qui est posé comme limite?
Moi, l'un des enjeux dans tout ce qu'on vient de se dire, bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut les inégalités sociales, territoriales, il faut aujourd'hui continuer à travailler dessus. La question des réseaux sociaux, elle est essentielle. Et puis la question du tissu associatif, qui sont ceux qui sont au plus proche. Et la question, bien évidemment, des sanctions et
On va devoir conclure.
On n'a pas parlé du harcèlement scolaire.
Toute petite réponse parmi les pistes déjà évoquées, des conseils de discipline dès l'école primaire, bonne ou mauvaise idée?
Encore une fois, ça doit être dans une stratégie globale et pas des mesurettes qu'on sort comme ça.
Donc voilà, là pour le moment, c'est trop gadget.
Ce qui est sûr et certain en tous les cas, c'est que moi, l'ensemble du corps enseignant que j'ai rencontré me disent il faut sortir de. Des parents étaient partis sur lycée, collège, et me disent c'est à partir du CM2, où il faut commencer déjà.
Des conseils de discipline.
Pourquoi
pas
les
conseils
de discipline. Une stratégie globale.
Mais on se rend compte que c'est à partir de cet âge-là que les jeunes commencent à avoir des téléphones portables, d'ailleurs.
Aujourd'hui, vous les voyez à la caisse de Carrefour à 3 ans, ils sont en train sur le portable.
Et merci à tous d'avoir participé à ce débat. Donc, la marche blanche demain pour Chemseddine, ce sera donc dans ce quartier meurtri. Donc, au départ de la MJC, c'est départ 14h. Donc, direction le stade du quartier, évidemment. On imagine qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, à ce nouveau numéro d'Île-de-France Politique. L'info continue sur BFM Paris, Île-de-France. Vous restez avec nous.